Ce que je voudrais qu'on retienne ce matin, c'est que Dieu nous appelle tous à une vie d'intendance. Et qui dit intendance dit gestion. Et qui dit gestion dit aussi intendance. Et cela est parsemé de défis. Et donc, j'aimerais quand même qu'on puisse parler un peu des caractéristiques de l'intendance. D'après Kent Wilson, on apprend à être un intendant avant de pouvoir diriger comme un intendant. Diriger est une responsabilité qui apporte son lot de défis, de stress et de tentations. S'ils ne sont pas soigneusement contrôlés par une base solide de caractère et d'identité, ils peuvent facilement conduire le dirigeant à devenir égoïste ou abusif. Il continue de dire que chacun sera à un moment ou à un autre l'intendant de ressources appartenant à un autre. Et j'ai pris le soin de mettre en couleur la partie appartenant à un autre. Il va parler des employés. La plupart des employés sont des intendants de ressources appartenant à quelqu'un d'autre. Il va aussi parler des parents. Les parents sont les intendants de leurs enfants pour une durée très limitée. Donc la partie rouge, une durée très limitée, ça veut dire que ces enfants ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Les citoyens sont gardiens de ressources qui appartiennent à la société dans l'ensemble. Et il va terminer pour dire que et nous sommes tous intendants de ressources de la terre qui appartiennent à Dieu. Donc, toutes les premières fois, on a parlé d'appartenir à quelqu'un d'autre, à la société, mais il va terminer pour dire que tout cela, tout ce qui existe sur cette terre, ça appartient à Dieu. Nous le savons tous déjà, n'est-ce pas? Par conséquent, apprendre à être un intendant est une possibilité offerte à chaque être humain. Vous et moi, nous sommes tous, nous avons cette possibilité, nous avons cette capacité. Il est beaucoup plus facile de diriger comme un intendant si nous avons d'abord appris à travailler. Et ça m'a fait du plaisir de voir que Eric a introduit le culte en parlant de travail. À être parent, à être un citoyen ou à prendre soin de la terre comme un intendant. De nos jours, quand on parle d'écologie, tous les thèmes de réchauffement climatique, c'est des thèmes qui nous parlent beaucoup, il y a beaucoup de soucis à ce niveau. Mais tout cela, on voit que même ceux qui ne viennent pas à l'église, ils sont des intendants de cette terre. Dans mon passage, ma prédication passée, j'avais parlé de projet de Dieu pour l'être humain. Et je vais revenir sur quelques-unes de ces slides. En Genèse 1, il dit que Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, « Produisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. L'Éternel Dieu, quand on part dans Genèse 2, le verset 8, 9 et puis le verset 15, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréable à voir et porteur de fruits, bon à manger. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Le cultiver et le garder. Et là, qui parle de culture et de gardien? L'intendance, la notion d'intendance ressort. Donc, le premier intendant, c'est Dieu lui-même d'abord, et ensuite, il s'est fait représenter, et il a construit tout, et il a demandé à ce que Adam et Ève soient les intendants de ce jardin, de ce monde, tout ce qu'il a créé. L'intendance d'Adam et Ève, on ne peut pas dire que ça a été une réussite. Donc, maintenant, la question que j'aimerais qu'on se pose ce matin, et toi, comment se passe l'intendance que Dieu t'a confiée? Au niveau de ta famille, au niveau de la société dans laquelle tu vis, au niveau de ta profession, comment se passe l'intendance que Dieu t'a confiée? J'aimerais qu'on parle de deux exemples d'intendance réussie. Parce qu'on a déjà vu que Adam et Ève, ils ont échoué un peu. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de deux exemples réussis. Qui dit intendance réussie, dit une bonne gestion des défis, du stress et des tentations. La plupart du temps, nous échouons dans nos projets ou dans la gestion de nos choses, parce que le stress, les défis, tout ce qui vient comme difficulté autour, ça nous empêche d'évoluer. Et on a tendance à focaliser sur ce qui ne marche pas, et ça nous phagocyte. J'aimerais qu'on parle de l'intendance de Néhémie. Comment ça s'est passé face aux défis, le stress et les tentations? Et pour ça, j'avais demandé à mon épouse de lire le passage de Néhémie, chapitre 4. C'est déjà... C'est toute une histoire, et j'aimerais quand même que, pendant la lecture, que chacun essaie de penser au mot défi, stress et tentation. Comment est-ce qu'on relie cela à notre propre vie?
Néhémie, chapitre 4. Cependant, Sanbala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant. Et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient, « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. « Il faut que vous reveniez chez nous. » J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levée pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillait à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda, ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « Le travail est immense et le chantier est en autre, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. » Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi notre travail. La moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver.
Merci. Alors, quels sont les mots qui vous ont traversé à la lecture? Une participation me ferait un peu de bien. Jour et nuit, quels sont les mots qui vous reviennent? Jour et nuit. Arc à la main, arme à la main. Quoi d'autre? Moitié travail, moitié surveillé. Stratégie. Vigilance. Prière.
Ne craignez pas, souvenez-vous que le Seigneur est
présent. Ne craignez pas, souvenez-vous que le Seigneur, il est présent. Combattra pour vous. Donc tout ça, ça nous amène à l'allusion d'un plan d'attaque numéro un que les ennemis de Néhémie ont utilisé, la force militaire. Et Néhémie, il a répondu comment? Aussi par une stratégie militaire. Lisons les 15 premiers versets du chapitre 6, s'il vous plaît.
Achèvement de la muraille. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem l'Arabe et nos autres ennemis ont appris que j'avais reconstruit la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'ont fait parvenir ce message. Viens, ayons une entrevue ensemble dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient l'intention de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai une grande tâche à accomplir et je ne peux pas descendre là-bas. Pourquoi le travail devrait-il être interrompu pendant que je l'abandonnerai pour vous rejoindre? Ils m'ont adressé 4 fois la même demande, avec toujours la même réponse de ma part. La 5e fois, Sanballat m'a fait parvenir ce message par son serviteur. Celui-ci tenait une lettre ouverte où il était écrit. On raconte parmi les nations, et Geshem l'affirme, que les Juifs et toi, vous avez l'intention de vous révolter, et que c'est la raison pour laquelle tu reconstruis la muraille. D'après ces rumeurs, tu vas devenir le roi, et tu as même établi des prophètes pour te proclamer roi de Juda, à Jérusalem. Maintenant, le roi va avoir connaissance de ces rumeurs. Viens donc et tenons conseil ensemble. J'ai fait répondre à Sanballat. Il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs dont tu parles. C'est toi qui les inventes de toutes pièces. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, « Ils baisseront les bras et le... » Maintenant, mon Dieu, fortifie-moi. Pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaéja, fils de Delaja et petit-fils de Mehetabel. Il s'était enfermé chez lui et a dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire, et fermons les portes derrière nous, car on va venir pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. » J'ai répondu, « Un gouverneur comme moi prendra la fuite. Du reste, comment un laïc tel que moi pourrait-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie ? Je n'y entrerai pas. » J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie sur moi parce que Sanballat et Tobija l'avaient soudoyé. Par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Mon Dieu, souviens-toi de Tobija et de Sanballat, en les traitant conformément à leur façon d'agir. Souviens-toi aussi de la prophétesse Noadia et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Elul, soit en 52 jours.
Merci. Alors, est-ce que c'est la même stratégie par rapport au premier passage? Qu'est-ce que vous retenez dans cette deuxième lecture? Il voulait l'effrayer. Discernement. Prière. Alors, on voit là, la stratégie militaire, ce n'est pas ce qui a été utilisé cette fois-ci. Plan d'attaque numéro 2, la ruse et la diplomatie. Viens et parlons ensemble. Viens dans le temple. Le temple de Dieu est censé être le lieu sûr. Et ils vont utiliser ça pour le dissuader. Et il a fallu du discernement à Néhémie de reconnaître que ce qui est en train d'être dit, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Combien de fois tombons-nous dans les pièges? Tout simplement parce que une stratégie a été tellement bien embellie qu'on pense que non, là, c'est vraiment Dieu qui parle. Que la ruse et la diplomatie, c'est aussi une stratégie que Sanballat et Tobija ont utilisée contre Néhémie. Donc, le deuxième exemple que j'aimerais qu'on aborde, c'est l'intendance de Jésus-Christ lui-même face aux défis. Quand on lit Matthieu 2, on ne va pas lire ces passages, mais vous savez déjà ce qui s'est passé. Le roi Hérode face au bébé Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit aux mages, allez-y, quand vous l'aurez trouvé, quand vous aurez trouvé l'endroit où le bébé réside, venez et dites-le moi, moi aussi je vais aller et je vais l'adorer. Est-ce que c'était vrai? La tentation de Jésus dans le désert, sur le temple et sur la montagne, à trois reprises, il va essayer de faire succomber Jésus. à ce que lui, il a mis comme plan. Donc, par rapport à Jésus, on voit que il a fait l'inverse de ce qu'il a utilisé avec Néhémie. Néhémie a commencé par la stratégie militaire. Quand ça a échoué, il a utilisé la stratégie de la ruse et de la diplomatie. Mais avec Jésus, dès le départ, c'est la ruse et la diplomatie par ça qu'il va commencer. Et après, quand la diplomatie et la ruse n'ont pas marché, il a utilisé la force militaire, en commençant par les accusations des chefs religieux. Après, ça a été suivi par l'arrestation de Jésus. Ensuite, le point culminant, c'est la crucifixion. Donc, on voit là, c'est la même stratégie, ce qui a été utilisé par Sambala et Tobia. Hérode et les chefs religieux ont utilisé la même stratégie et qui a fini par envoyer Christ à la croix. Nous devons retenir que l'esprit Sambala et Tobija, l'esprit Hérode, ça a toujours été là. Et ils utilisent toujours diplomatie, force militaire, diplomatie, force militaire. Quand on utilise l'autre, que ça ne marche, l'un que ça ne marche pas, on va utiliser l'autre. Et Satan, il a toujours fonctionné comme ça. Vous allez peut-être me dire que non, il vient fraîchement de Côte d'Ivoire, donc il est encore dans ce mood. Mais la réalité est que même dans ce pays, on... Donc en tant qu'Église, en tout cas le Seigneur me met à cœur de nous dire ensemble, faisons attention à l'esprit Sambala, faisons attention à l'esprit Tobija, faisons attention à l'esprit Hérode. C'est ce même esprit qui a été utilisé dans le jardin d'Éden contre Adam et Ève, et ils ont échoué. L'intendance de Néhémie, on peut conclure qu'il est réussi, parce que le mur de Jérusalem a été construit. L'intendance de Jésus est aussi réussie par sa résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, on n'en serait pas là aujourd'hui. On ne parlerait pas de pardon de péché. Église de Cossonay. Nous venons d'avoir un nouveau bâtiment construit. Nous venons d'engager un nouveau pasteur. Si on s'en tient à ces deux éléments, on dira que notre intendance est réussie, n'est-ce pas? Mais, et la suite de l'intendance? Que faisons-nous de ça? Rappelons-nous que notre vision d'Église, c'est quoi? Une région de Cossonay connectée au Christ pour la gloire de Dieu. Et quand je suis allé sur le site internet de l'Église, on a mis « Nous rêvons ». Nous rêvons. Alors, sur ce point-là, moi, je dirais que notre intendance n'est pas terminée. On a encore beaucoup à faire. Parce que ce rêve doit devenir une réalité. Alors, vigilance, s'il vous plaît. Nouveau bâtiment, nouveau pasteur, vigilance. C'est le moment de nous tenir les mains. Serrons-nous les coudes autour de ce nouveau bâtiment, autour de ce nouveau pasteur. Parce que chacun a sa part d'intendance à jouer. Ce n'est pas seulement l'affaire du conseil pastoral. Ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur qui doit faire ses preuves. Non, chacun de nous est appelé à jouer sa part. Et attention à l'esprit de Sambala, l'esprit de Tobias et l'esprit d'Hérode. Faisons attention. Parce que si nous ne faisons pas, nous ne prenons pas garde. C'est à l'intérieur même que, si on est dans une phase, vont commencer. Parce qu'on est dans une phase de transition, on est dans une phase sensible. Si nous ne prenons pas garde, même les responsables, les membres du conseil pastoral, ils vont être très vite épuisés et ça ne nous arrange pas. Cet esprit dont je viens de parler, ce n'est rien d'autre que l'œuvre de Satan pour détruire la mission d'intendance que Dieu a confiée à nous tous. Ce n'est pas une affaire d'un groupe, ce n'est pas une affaire d'un individu, c'est une affaire d'une communauté. Nous sommes tous des intendants. Parce que la Bible dit que dans le cœur de l'homme, beaucoup de projets se formulent, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. On peut avoir beaucoup d'idées comment le pasteur devrait faire son travail dans cette église pour que l'église puisse aller de l'avant, pour que la région soit connectée au Christ. Mais ce n'est pas le pasteur seul, ce n'est pas les responsables seuls, c'est chaque membre de cette église. Nous sommes tous des intendants, des ressources de la terre qui appartiennent à Dieu. Ce bâtiment-là, ça ne nous appartient pas. Tout ce qu'on fait au sein de cette église, ça n'appartient à personne, si ce n'est Dieu et Dieu lui seul. Parce que c'est à lui qu'appartiennent la gloire, le règne et la puissance au siècle des siècles. Amen.